Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
On va parler de la France dans le monde. Alors, première question, par rapport au débat éternel, est-ce que la France a encore des marges de manœuvre? Est-ce qu'elle a encore une puissance? Est-ce qu'elle peut encore avoir des actions au niveau international? Comment évaluez-vous les marges de manœuvre de la France dans un monde en recomposition?
C'est affaire de volonté, parce que si on ne prend pas le problème par ce bout-là, on va finir par des absurdités. La question ne se pose pas de la France, mais des défis. Et comment on y répond? Et donc la France peut y répondre. À proportion de ses moyens? Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle ses moyens? Prenons un exemple. L'Allemagne a d'importants moyens. De quoi? De fabriquer des voitures et des machines-outils. Et un excédent commercial. Est-ce que ça suffit pour faire de cette réalité une puissance morale, une puissance politique dans le monde? Je ne crois pas. Je pense que ça permet de faire une puissance commerciale. Donc, quel genre de rôle voulons-nous jouer? C'est ça la première question.
Oui.
Et donc, pour un Français, les problèmes politiques se sont toujours posés d'une manière légèrement différente que pour les autres. Parce que nous sommes le peuple qui a fait une révolution, non pas pour les Français, mais pour l'humanité tout entière, posant des principes valables pour l'humanité. Donc la question se repose de la même manière pour nous. À quoi doit-on faire face? Comment va-t-on y répondre? Et une fois qu'on a une idée et du défi et de la réponse, on va chercher les moyens à y appliquer. Parmi ces moyens, il y aura l'implication populaire, qui est une donnée rare et précieuse, mais c'est elle qui fait le succès des grands desseins. Et deuxièmement, des alliés. Manquons-nous d'alliés potentiels dans le monde? Non, je ne le crois pas.
Quels sont les principaux défis qui se posent, qui se poseront au futur président français qui va arriver à l'Élysée en 2022?
Une montagne de choses nouvelles s'ajoutant aux choses anciennes et à celles qui les transcendent toutes. Par exemple, l'impact géopolitique du changement climatique reste encore une inconnue, un non-pensé pour beaucoup de responsables politiques, de dirigeants politiques. Les frontières, ici, là, vont être culbutées par des mouvements de population liés, ici, à la sécheresse, là-bas, à l'inverse, aux inondations et aux événements climatiques violents. Et que les gens en aient conscience, qu'ils le veuillent ou non, ils déstabiliseront l'ordre géopolitique parce qu'ils vont passer des frontières, des fois sans savoir que c'en est une, parce que ça va déséquilibrer les rapports à l'intérieur des nations dans un tas d'endroits. Je prends cet exemple un peu sommaire, mais après, de là, ça permet de mieux comprendre comment certains grands défis vont perturber les relations générales. Par exemple, l'eau. Dans le monde, la question de l'eau va devenir un enjeu. Et ce sera vrai aussi en Europe. Alors, on va en mettre de côté les Européens qui, peut-être parce qu'ils ont vécu 70 ans de paix et d'un développement du modèle capitaliste ininterrompu qui a laissé tomber un certain nombre de miettes sur la masse de la population, on finit par se déshabituer d'à peu près tous les risques que les autres peuples ont assumés. Voyons en ce moment la pandémie. Bon, les Européens sont terrorisés, c'est normal. Mais enfin, l'Afrique vit dans les pandémies depuis des générations, et elle a appris à vivre avec les pandémies, puisqu'aussi bien personne n'est venu l'aider sérieusement sur le paludisme ou des questions de cet ordre. Mais enfin, je reviens à la question de l'eau. Ça, c'est le substrat commun, la substance nouvelle des choses qui vont arriver devant nous. Mais après, les conséquences de l'évolution de l'organisation de la société humaine avec cette extraordinaire concentration de la richesse à un pôle, c'est pas tant la concentration de la richesse qui me fascine dans cette histoire ou qui m'intéresse que l'assèchement du reste de la société. C'est-à-dire, elle est mise dans l'impossibilité de soigner, impossibilité de éduquer, c'est-à-dire des fonctions fondamentales de l'existence. Et dans cette circonstance, en général, c'est là qu'on trouve des périodes dites révolutionnaires, c'est-à-dire lorsque l'organisation de la société, son organisation politique, économique, sociale, ne peut plus répondre à des questions mais tout à fait élémentaires qui n'ont rien d'idéologique, c'est comment se nourrir, comment se vêtir, ou dormir en paix, etc. Et progressivement, cette société si puissante, si riche, si développée quant à ses moyens techniques, augmente la masse de ceux qui n'ont rien, ils sont dépourvus de tout. Et là, ce sera un défi, personne ne peut échapper à ça. Alors j'ai dit les défis climatiques, les sociétés qui se croient à l'abri de tout et de tout le monde ne pourront pas échapper aux conséquences migratoires, pandémiques, etc.
Est-ce que ça n'a pas été un peu le piège pour les pays occidentaux qui, au début de la crise du Covid-19, ont pensé que les pandémies c'était uniquement pour les pays africains et asiatiques et que l'Occident en serait épargné alors que l'Europe et les États-Unis ont payé le plus lourd tribut. Donc est-ce qu'il y a quelque part une arrogance occidentale, une hubris occidentale, et quel rôle par rapport à cela la France spécifiquement peut jouer ?
Alors, moi j'ai toujours du mal à admettre ce n'est pas la France qui a été prise à revers, ce sont ses gouvernements. Ce n'est pas la France qui a été incapable de relever la pandémie, c'est que son service public a été détruit. En ce moment même, nous ne parlons de confinement et de reconfinement que pour une seule raison, c'est qu'on n'est pas capable d'accueillir plus d'un certain nombre de gens en service de réanimation. Un esprit, je viens à la pointe, un esprit avisé aurait dit, si c'est ça le problème, augmentons le nombre de lits. Augmentez pas, M. Mélenchon, augmenter en claquant. Bien sûr, on peut quand même développer. Et puis, deuxièmement, on se poserait la question de faire comment agir pour que lorsque quelqu'un est atteint par le virus, il ne tombe pas dans un état de gravité de santé au point d'avoir besoin de l'emmener en réanimation. Donc on aurait d'abord parlé, comme d'habitude en médecine, des soins et puis du vaccin pour éviter d'attraper la maladie. C'est pas du tout dans cet ordre-là que les problèmes ont été pris. Ce qui l'a emporté par-dessus tout, c'est le primat absurde de l'ensemble idéologique du néolibéralisme, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, l'allocation spontanée de la ressource au bon endroit, et autres opérations métaphysiques de la main invisible et tout ça. Bon, tout ça, ce sont des histoires, mais le résultat, c'est payé très cher. Et pendant tout le long de la crise, et encore à l'heure à laquelle nous parlons, cette logique politique s'appuie, c'est-à-dire qu'on continue à fermer des lits d'hôpitaux, on continue à fermer des hôpitaux, on continue à ne pas recruter. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée que le secteur privé, le marché, va prendre le relais. Et ne croyez pas que ce soit une accusation dans le vide, parce que dans ma ville, à Marseille, il y a au moins un hôpital qui a été fermé, qu'on vend à la découpe, à des cliniques privées. Hein. Donc il y a une logique de la réorganisation néolibérale du monde. On dit néolibérale, c'est pour dire correspondante au capitalisme financiarisé de notre temps. Donc ça vient, d'abord, nous ne le perdons jamais de vue, des intérêts sont à l'œuvre, la société n'est pas un colloque savant où des gens se trompent, ou des vieux professeurs auraient eu tort contre des jeunes, ou l'inverse, hein, que sais-je. Non, des intérêts sont en place, ils se confrontent, et l'art de gouverner aurait dû les conduire à aborder la question complètement différemment, comme je l'ai dit, en partant des choses assez évidentes, comment y répond-on, qui est capable de répondre à ça, quels moyens on déploie, bon... ça n'a pas été fait. Et puis, ils se seraient tôt rendu compte que, si c'est le cas dans leur vision du monde, il y a plus d'inconvénients à mettre en prison toute la société qu'à la laisser en liberté, parce que c'est le paradoxe des libéraux. C'est que c'est eux qui sont en train, par leur méthode, de mettre toute la société en prison, alors des lois sécuritaires, mais aussi cette histoire de confinement, reconfinement. Si vous voulez bien y réfléchir, c'est un procédé totalement archaïque, le confinement, c'est la quarantaine qui se pratiquait déjà au Moyen-Âge. Vous êtes ici dans mon bureau, nous sommes à 100 mètres du couvent des Récollets, c'est là qu'on mettait les malades infectieux, parce que la barrière de Paris s'arrêtait un peu plus bas, à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, pas un instant, ils n'ont imaginé qu'on puisse faire autre chose que ça. On aurait pu imaginer tout de suite la société par rotation, et de toute façon, il faudra bien y penser, parce que on ne pourra pas faire vivre les gens en prison tout le temps, comme c'est le cas actuellement. Donc il y a dans leur manière de voir le monde, de voir la vie, quelque chose qui est extrêmement glaçant, parce que c'est un préjugé idéologique mis en œuvre par des moyens technocratiques, et tout ça ne parle pas tellement la langue humaine. La langue humaine, elle est faite de bistrots ouverts, autant que d'églises, de salles de spectacle, elle est faite de jeunes gens qui peuvent se rencontrer, même quand c'est difficile et compliqué, hein, voilà. Donc, leur vision du monde, leur manière d'agir nous a enfermés dans une impasse. Alors, la France, d'Adam, elle, elle, Elle peut tout le temps agir. Bon, mais encore faut-il qu'on n'ait pas désarmé.
Il y a toujours un message spécifique de la France. Vous parliez de l'acte fondateur d'une révolution au service, enfin, pour les autres, non pas pour les Français. Aujourd'hui, quel serait le message spécifique de la France au reste du monde? En quoi elle peut se distinguer et qu'est-ce qu'elle peut proposer comme direction?
Alors, bon, déjà, on aurait une attitude un peu pragmatique, desserrer les taux. Hein. Nous ne voulons pas de maître. Et nous pensons que être indépendant, qui ne dépend pas, hein, c'est être souverain. Si vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'êtes pas souverain. Je veux dire capable de pourvoir par vous-même aux besoins de l'existence de notre peuple. Alors il faudrait récupérer la souveraineté alimentaire, il faudrait récupérer ceci, cela, je ne vais pas faire toute la liste. Mais la leçon pourrait être, faites-en autant. Faisons tous tout ce que nous pouvons pour nous rendre souverains et indépendants. Et c'est ce qui va nous donner les bases pour une coopération qui ne serait pas une opération généralisée de spoliation comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que le mode de la coopération internationale aujourd'hui, c'est la destruction mutuelle. C'est l'Union européenne qui achète des droits de pêche et prend absolument tous les poissons qui s'y trouvent au détriment de toutes les populations qu'il y a autour, qui du coup courent dans les villes, qui du coup, etc., etc., provoquent des vagues migratoires. Donc ça, c'est le mode actuel. Donc la France, elle pourrait faire plusieurs choses. D'abord, se mettre au service, d'abord, d'une idée, indépendance, souveraineté des peuples, ce qui veut dire démocratie. Mais ça, à la limite, ça se fait dans la durée. Mais dans l'immédiat, il y a des manières de faire. Par exemple, nous aurions pu nous mettre au travail immédiatement et d'arrache-pied, mettre au point soit un vaccin, soit en convenir avec d'autres qui étaient déjà engagés. Et non pas se mettre totalement au service des multinationales du Big Pharma qui ont décidé de faire une expérience généralisée à l'échelle du monde sur ce que donne l'ARN messager, ce dont ils n'ont aucune idée en commençant, mais enfin, ils pensent qu'ils vont bien finir par le voir. Et donc, nous avons été tous soumis à cette formule. Pendant ce temps-là, d'autres vaccins sont apparus, plus traditionnels, qui ont l'air de fonctionner. Bon. Pendant ce temps-là, des soins sont apparus. Nous aurions pu faire ça. Les Cubains ont bien été capables de le faire, alors pourquoi pas nous? Si une petite île dans les Caraïbes est capable d'envoyer des médecins chez les autres pour donner le coup de main, pourquoi les Français n'y seraient-ils pas, n'y parviendraient-ils pas? Et ainsi de suite. Donc dans mon idée, il y a un rôle de la France, pas un rôle, il y a une idée qu'on peut se faire des solutions aux problèmes. Ce ne sont pas des solutions françaises, ce sont des solutions universelles, c'est-à-dire qu'elles valent pour tout le monde. Et nous n'en sommes pas toujours les inventeurs. Alors prenons le mieux de ce qu'on entend qui convient à résoudre les problèmes de chaque peuple. Mais je ne veux pas qu'on laisse passer ce moment sans rappeler deux choses. Premièrement, nous ne sommes pas une puissance occidentale, les Français. Nous sommes une puissance universelle, c'est-à-dire que nous existons sur les cinq continents ou en face d'eux. Nous sommes un pays caribéen, dans la mer Caraïbe, nous sommes un pays latino-américain par le département de la Guyane, nous sommes un pays de l'océan Indien par la Réunion et Mayotte, bref, nous sommes un peu partout. Et donc ça nous met dans un autre rapport au monde que cette vision, à mon avis, étriquée de la France, petit secteur de l'Europe dont la position a changé, puisque il y a quand même que quelques années, la France était le pays central de la construction de l'Union européenne au plan géographique, et il est devenu une bordure. C'est l'Allemagne qui est devenue un pays central, puisqu'on a fait entrer d'un coup 10 nations venues de l'ancien bloc soviétique. Donc notre position a changé, pour autant, les principes qui nous animent. La nation française, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est pas den deutschen Volk, c'est-à-dire la tradition d'un peuple au sens ethnico-culturel, ce qui désespère l'extrême droite, qui voudrait que nous soyons avant tout chrétiens ou je ne sais quoi. Mais c'est ça la France. Et puis nous allons affronter des choses dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui vont exister très rapidement. Quand les rapports sociaux se tendent comme ils se tendent, qu'est-ce qui craque d'abord? Tous les endroits fragiles. Et quel est l'endroit le plus fragile souvent d'une société? Ben, c'est sa frontière. Et par conséquent, ce qui est en train de craquer, c'est les frontières du Royaume-Uni avec l'Écosse qui voudrait être indépendante. Ce qui est en train de craquer, c'est la frontière qu'on coud des coups au cou entre les deux Irlandes. C'est la tension qui est apparue entre les Catalans et d'Espagne et le Royaume espagnol. C'est les Flamands qui ne veulent plus vivre avec les Wallons. C'est les Polonais qui ont des ambitions sur des bouts de l'Ukraine, comme la Hongrie, dont on ne parle jamais, puisque ça fait tache dans le tableau qu'on avait d'abord dessiné d'une opposition frontale de tous les Européens pour soutenir l'Ukraine, etc. Enfin, vous connaissez ce roman aussi bien que moi. Donc tout ça, c'est des questions qui vont venir. Moi, j'avais pensé qu'on avait intérêt à proposer une conférence des frontières. On m'a reproché de vouloir y toucher. Non, je suis juste en train d'expliquer qu'elles vont craquer toutes seules. Elles n'ont pas besoin que quelqu'un intervienne. Par contre, nous aurions intérêt à trouver une solution rationnelle au problème quand il se pose, un code de bonne conduite éventuellement. Ça ne peut pas consister seulement à faire comme l'Union européenne l'a fait à l'égard de la Catalogne espagnole en disant « si vous vous rendez indépendant, vous ne serez plus membre de l'Union européenne ». C'est-à-dire tout de suite une violence. Hein, avant qu'on ait ouvert la bouche et décidé quoi que ce soit, tout de suite on nous annonce des violences. Donc ça, c'est les défis de la France, en plus de ceux de sa sécurité qui n'est plus garantie, parce que la militarisation de l'espace, décidée comme ça, sans que personne n'en ait discuté nulle part, et en contradiction avec tous les traités internationaux, c'est défait par les États-Unis d'Amérique, et là-dessus, le président français a embrayé en décidant de faire un état-major de l'espace. Donc, cher Pascal Boniface, vous êtes au courant, maintenant la guerre s'est prolongée jusque dans l'espace, et ça change naturellement les conditions de la conflictualité sur Terre, pas sur Terre, je veux dire au sens du sol, du plancher des vaches, parce que depuis l'espace, une partie des batailles peuvent se mener, se perdre et se gagner. Donc tout ça, c'est les défis. Il ne faut pas croire que les défis sont toujours concrets. Et il faut aller au concret.
Le défi de la montée en puissance de la Chine, on nous demande de faire alliance avec les États-Unis pour faire une alliance occidentale par rapport à la Chine. Qu'est-ce que vous pensez et comment traiter ce géant nouveau qui va devenir la première puissance mondiale?
Comme il aurait fallu traiter les précédentes, c'est-à-dire avec esprit d'indépendance, raisonnable, de discuter tranquillement et sans a priori. Si De Gaulle reconnaît la Chine en 1964 ou 1965, on n'a pas vu qu'il soit devenu maoïste pour autant. Hein. Donc c'est un enseignement qui nous est donné. On peut discuter avec un pays parce qu'on voit en lui la nation et son caractère pérenne plutôt que le régime du moment. Alors ça, évidemment, ça fait mauvais genre par les temps actuels, où il faut être absolument des missionnaires de la démocratie, puisque nous sommes exemplaires tous, comme vous le savez, et même en matière de répression et de brutalité, puisque à Hong Kong, ce sont les matériaux français et les doctrines françaises de répression qui sont appliquées. Bon, je le dis avec un sourire amer, parce que c'est pas dans ce rôle-là que je voyais mon pays, mais, alors, prenons les choses comme elles sont. La Chine était le premier PIB du monde au XIXe siècle. Donc des tas de gens sont en train de découvrir que la Chine existe, et que quand on est 1,5 milliard d'individus regroupés dans une même frontière, avec un même régime, une même monnaie, une même direction politique, eh bien le scénario le plus probable, c'est que tout ça va être mis au service de la population et du régime qui le porte. Donc c'est une puissance, aujourd'hui c'est la première puissance du monde, le problème est réglé sur le plan matériel, ceux qui ont cru qu'ils allaient les domestiquer les Chinois en leur faisant fabriquer d'abord des ombrelles et puis ensuite, je sais pas quoi, moi des roues de chariot, je me rappelle avoir entendu ça, partageons-nous le travail, ils feront les ordinateurs, ils feront les ombrelles, un résultat, ils feront et les ombrelles et les ordinateurs, et nous plus rien, même pas des masques en tissu que nous sommes obligés d'aller leur demander. Donc, c'est le premier producteur, le premier acheteur, le premier vendeur du monde. Ils viennent s'installer dans une zone de libre-échange qui regroupe l'équivalent du 30% de la production de richesse du monde. Donc, l'affaire est pliée. Les États-Unis ont compensé leur faiblesse, qui était une faiblesse déjà bien réelle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le système monétaire a été installé, où tout reposait sur le dollar, c'était leur donner un privilège absolument inouï. Et puis en août 71, ils ont décidé que le dollar valait ce qu'on voudrait bien croire qu'il vaut, et qu'eux ne s'en souciaient pas, comme ils disaient, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, résultat, ils en ont inondé le monde. Et donc depuis, tous ceux qui veulent être indépendants essayent de ne plus avoir de dollars à utiliser. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait la Russie, c'est ce qu'ont fait les BRICS auparavant, et c'est ce que finiront par faire ces 17 pays du nouveau marché libre avec la Chine, où on se paiera en monnaie nationale. Bon. Évidemment que la partie est perdue pour les États-Unis d'Amérique et que, évidemment et comme d'habitude, ils choisiront de se précipiter dans la violence, puisque c'est un pays qui, en 229 ans d'histoire, a fait 222 ans de guerre. Donc c'est leur principale activité, l'agression, la brutalité, la violence. Bon, voilà, tout le monde oublie, quand on parle aux États-Unis, qu'ils ont piqué la moitié de la superficie du premier voisin qu'ils ont, les Mexicains. Hein. Voilà, voilà le genre de voisin que c'est. Nous, on en a un aussi qui a tendance à sortir de chez lui à intervalles réguliers, mais dans une proportion pareille, c'est du jamais vu. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Trump a essayé, rationnellement, de dire, ben, nous allons essayer de reconstituer la base productive nord-américaine, comme ça, nous ne dépendrons plus de la seule circulation du dollar dans le monde pour assurer notre... Bon, ça n'a rien donné. Le suivant ne changera pas grand-chose à ça, sinon que je prends les paris, que comme d'habitude, ils vont lancer un immense programme de révision des armements, etc., parce que l'économie d'armement est la courroie d'entraînement de l'économie nord-américaine.
Comment vous expliquez l'influence persistante des États-Unis sur les élites françaises ?
Il y a toujours un temps de retard. Autrefois, ce qui se faisait aux États-Unis mettait 10 ans à arriver en France, mais l'unification des modes de production, des modes d'échange, des circuits commerciaux font que la propagation se fait assez rapidement maintenant. En général, c'est le pire qui circule le plus vite et le meilleur qui circule beaucoup moins vite. Donc on a une idée, autrefois on appelait ça l'accélération de l'histoire. Bon, alors c'est un point qui donnait lieu à débat, mais la précipitation de l'histoire, ça plus personne peut en disconvenir, c'est comme ça, donc ça va de plus en plus vite. Et les élites, certaines élites en France, ont toujours, il y a toujours eu un groupe d'atlantistes, à l'époque du monde de Yalta, bon, on était soit du côté de l'URSS, soit du côté des États-Unis, et puis ceux qui voulaient être ni des uns ni des autres étaient pour les plus nombreux, mais bon, ils s'en sortaient pas mal. Et puis à un moment donné, bon, nous avons perdu pied, quoi. Et nous avons été submergés par l'atlantisme. Le Quai d'Orsay, qui était un des refuges de l'identité, une certaine identité indépendantiste française, est devenu, pendant une période qui a duré un certain temps, un ramassis de néo-conservateurs qui oubliaient jusqu'aux prémices les plus évidentes des nécessités des relations internationales françaises, comme « Ah, on ne se fâche pas avec la Russie ». Quelqu'un qui commence la géopolitique et qui est dirigeant français doit être un, on ne se fâche pas avec la Russie parce que chaque fois qu'on le fait, ça tourne mal. Deux, nous ne sommes pas des missionnaires armés. Donc il vaut mieux trouver une autre manière de convaincre les gens que d'essayer de le faire de force. Il y a comme ça deux, trois choses. Mais tout ça a été nié par ces gens pendant peut-être 15, 20 ans. Sans doute parce que par leurs écoles, par l'apprentissage général de l'anglais au détriment de toutes les autres langues, une certaine arrogance de compensation, c'est-à-dire les faibles, souvent, mettent des talonnettes pour paraître plus grands. Et alors, étant les suppôts des Nord-Américains, ils se voyaient par transposition, aussi grands qu'eux, aussi importants, aussi, et ont accepté des sottises comme la guerre des le choc des civilisations, cette théorie absurde qui ne mène les Français nulle part, ni d'ailleurs qui que ce soit, à part les Nord-Américains eux-mêmes. Et qui, en définitive, s'avère incapable de penser le monde autrement que dans la confrontation et la conflictualité. Voilà. Pourquoi devrions-nous nous choquer avec les Chinois ? Essayez de m'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont Chinois. Mais auparavant, pourquoi aurait-il fallu, pour le même raisonnement, se choquer avec les États-Unis d'Amérique ? Il y a peut-être d'autres solutions. De même, la puissance ne repose pas seulement sur le nombre d'armes qu'on peut mettre en circulation. Du moment qu'on est protégé, c'est bon. Hein. Bon, la puissance, c'est d'autres choses, peut-être la valeur de principe, l'attractivité, l'autorité morale que l'on peut conquérir. Regardez, de quoi va être fait le XXIe siècle s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y en a pas tout cassé avant. Bon, il va être fait de la conquête de l'espace. Hein. J'ai fait un meeting là-dessus avec un hologramme, je voulais illustrer ça. Bon. L'espace, oui, ben voilà, maintenant, là, au moment où je fais mon premier discours là-dessus, mes propres amis disaient, mais c'est bien ce qu'il raconte, mais de quoi est-ce qu'il parle ? La conquête de l'espace. Là, nous sommes en train de parler tranquillement, il y a 8 expéditions en route vers Mars. 8, pas une, pas deux, pas trois, 8. Les Chinois y sont, essayent, les Américains, les Japonais, tout le monde est parti. Et bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes capables de faire des fusées, nous sommes capables de faire des satellites, nous avons un pas de tir pour ça. La France, elle serait pas plus grande si elle ouvrait une université consacrée à toutes les questions qui ont à voir avec l'espace et qu'on assure la formation de ceux qui voudraient venir, pas qu'on obligerait à venir. Est-ce que nos frères sénégalais, nos cousins maliens et combien d'autres ne seraient pas heureux de venir avec nous, qui ont une telle capacité, qu'ils ont démontré, intellectuelle, ailleurs, mille fois, hélas, ailleurs qu'avec nous, Français? Est-ce que c'est pas un argument d'autorité, de puissance, hein, autrement plus important que de menacer tout le monde? Je prends l'exemple de l'espace, mais je pourrais dire pareil pour la mer. Tout le monde y est ici, puisqu'on y est tous.
C'est, vous êtes un des rares hommes politiques français qui a une vision, vous parlez souvent dans vos interventions, de la mer, et vous pensez qu'on néglige cet aspect central.
Alors, il paraît que c'est une vieille histoire, ce que j'aime bien croire. Mais ce qui est certain, c'est que quand on a le deuxième territoire maritime du monde, quand, sans le savoir, la France a augmenté la surface de son territoire de 10% sans tirer un seul coup de fusil, ce qui a fait sans précédent dans son histoire, cette opération s'est réalisée sous le gouvernement de Lionel Jospin, puisque nous avons rempli tous les papiers qu'il fallait remplir pour montrer la continuité des plateaux continentaux, des terres placé sous l'autorité de la France. Bon, c'est énorme. Et figurez-vous que pour contrôler, surveiller, que dis-je, simplement être là, ce territoire immense, nous avons l'équivalent, pour vous donner une image, hein, de ce que nous aurions si nous n'avions pour le territoire de l'Hexagone que deux voitures de police, en tout et pour tout. Donc, je sais qu'une des choses que nous aurions à faire tout de suite, c'est de construire le nombre de bateaux dont on a besoin pour aller, venir, circuler, protéger, se mettre au service des autres, pour qu'eux aussi évaluent la taille de leurs plateaux continentaux, parce que de toute façon, bientôt, encore une fois, si le monde n'est pas détruit par le changement climatique ou par les guerres, eh bien, l'humanité, comme c'est son histoire depuis 200 millions d'années, elle va, elle avance, puis à un moment arrivé, c'est la mer, c'est fini, on traverse. Oui, en bateau. Mais maintenant, c'est dans le territoire qu'on va aller. Et c'est commencé. Qui décide de l'attribution des territoires des grands fonds? Eh bien, voilà la réponse, personne. Donc faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous sentez Pascal Boniface, vous pouvez occuper le territoire que vous voulez, personne ne pourra s'y opposer. Là, je le dis sous cette forme-là, mais la vérité, c'est que il y a un petit comité de l'ONU qui attribue des droits de forage, parce qu'évidemment, il ne s'agit que de ça, d'aller ramasser ce qu'il y a là. Et en effet, la richesse est considérable. C'est 70% de l'étendue de la surface de la planète, c'est la mer. Donc, reprenons. Ne croyez-vous pas que si nous avions nos propres instituts, universités à échelle de masse, qui recruteraient des gens de tous ces peuples qui sont au bord des mers, et leur diraient, écoutez, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Bref, qui prendraient leur jeunesse, qui évidemment établirait des échanges avec nous en langue française. Nous sommes le troisième ou quatrième groupe, très bientôt, de locuteurs dans le monde. Est-ce que ça, c'est pas plus intéressant que d'aller s'enfermer avec les rentiers, les boutiquiers de la vieille Europe, qui est en déclin démographique, à avoir peur de la terre entière et du moindre mouvement de population? Je trouve ça beaucoup plus exaltant et puis conforme. Regardez, on peut commencer tout de suite. Là, nous sommes au bord de la Méditerranée. Quand vous regardez une carte, la Méditerranée est le pédiluve de l'Europe. Mais non, c'est le cœur de notre civilisation. C'est un grand lac avec une petite porte d'entrée de 13 km. Eh bien, autour de ce grand lac, il y a 100 millions de personnes, plus de 100 millions de personnes, côté rive vers le sud, qui ont en commun l'usage du français. Bon, c'est déjà pas mal, non, pour commencer à se comprendre. Nous sommes intimement mêlé à la population du Maghreb. Alors, je sais qu'il y en a qui ça déplaît beaucoup, qui le regrettent, mais c'est comme ça, on n'y peut plus rien. Si ça vous dégoûte, n'en dégoûtez pas les autres, parce que ce sont nos familles. Et voilà qui nous crée des opportunités extraordinaires. Et on pourrait dire, bon, on commence par nettoyer la mer Méditerranée. Puisqu'on dit, vous savez, vous connaissez la phrase, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons. Ça va aller vite. Les grands travaux qui sont à faire pour purifier les eaux qu'on y jette, les eaux usées, et ainsi de suite. Partout, les logiques de coopération devant les situations de détresse qui s'annoncent, climatiques, nous permettent de jouer un rôle, si on a envie d'en jouer, en tout cas d'être là, à la table des humains, pour y amener notre part. Et notamment pour la Méditerranée, il vaudrait mieux s'y prendre dès maintenant. La Méditerranée s'évapore plus vite que les autres mers. Par conséquent, les événements climatiques extrêmes vont abonder. Et donc, ça soulève toutes les questions de savoir comment une société peut se tirer d'affaire dans un changement climatique aussi radical que celui qui arrive. Bon, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Mais le moment venu, quand il y aura la vallée de la Roya tous les mois, peut-être que tout le monde se dira, tiens, on pourrait faire quelque chose.
Pour terminer cet entretien, on arrive à l'issue. Si vous êtes élu président de la République en mai 2022, quel sera votre premier déplacement à l'étranger ?
Oui, on m'a souvent posé la question et je me la suis posée. Je pense que l'évidence est que c'est évidemment dans le Maghreb que se passent beaucoup de choses pour nous. Donc, il faudrait donner un signe assez spectaculaire de fraternité, sans employer les grands mots, mais si quand même, d'amour. Dire aux Algériens, écoutez, la guerre est finie. Donc, on pourrait passer à autre chose. La génération qui est là n'est responsable de rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Et sans rien oublier, ni rien pardonner comme ce n'est pas pardonnable, peut-être peut-on passer à autre chose. Et puis, avec les Tunisiens, aller à la rescousse, on pourrait dire, écoutez, on comprend que vous êtes dans une situation affreuse, nous annulons la dette que vous avez à notre égard. On pourrait, avec les Marocains, imaginer aussi plein de choses. C'est mon pays natal, je crois que je connais un peu bien les Marocains. Ce sont des gens plutôt bien disposés à l'idée d'une coopération aussi étroite que possible. Il faut cesser d'avoir peur du monde et se remettre à l'aimer, à l'apprécier. L'Europe, que ça plaise ou pas au gouvernement qui s'y trouve, est en déclin démographique depuis 2015. Donc, c'est pas un très bon signe de confiance dans l'avenir. Nous avons eu les plus forts taux de natalité quand de nouveau les Français s'étaient mis à croire qu'on pouvait faire autrement. C'est-à-dire, ça s'est trouvé dans les années fin des années 90, début 2000. Ça tombe sur un gouvernement de gauche. Et ma foi, les affaires s'améliorant, on reprenait confiance. Aujourd'hui, la défiance est extrême. Vous savez qu'on est une des années les plus basses en démographie. Je le signale non pas pour dire qu'il n'y a pas d'autre issue que nataliste. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est quand même le suprême signal de peur de l'avenir et de manque de confiance. Et ça ne se reconquiert pas autrement. Comme on dit, qu'en se donnant des raisons de vivre, c'est comme pour une vie individuelle. Si on a des raisons d'aller, de l'avant, de faire ceci, de faire cela, ça marche. Je vois dans toutes les grandes écoles où je passe, en général, je me fais une petite séquence un peu paternaliste, j'en conviens. Je leur dis, il y a intérêt à bien travailler ici, parce qu'on va avoir besoin de vous pour faire ceci. Jamais. Pourtant, vous connaissez l'esprit des jeunes gens, ils sont très frondeurs. Je l'ai été moi-même, donc je sais de quoi je parle. Eh ben non, personne ne m'a dit, mais dites donc, vous, qu'est-ce qui vous parlez de nous parler comme ça ? Jamais, on me dit, et comment vous voyez ça, monsieur Mélenchon ? Voilà, comme vous, la même question. Donc, chaque génération est un peuple nouveau, et moi, je ne dis pas, c'était mieux avant, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas, ça sera pire demain, ce n'est pas vrai, ça sera autre chose. Et cette autre chose, on peut l'aborder, je sais que ça peut paraître tout à fait étrange de parler comme ça, en pleine crise de la pandémie, quand on a l'impression que ça n'en finira jamais, d'abord parce que ça finira. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre manière d'imaginer le gouvernement des peuples qu'avec des raisons de vivre. On peut pas, je ne crois pas au fait qu'on puisse faire fonctionner des sociétés indéfiniment dans la peur des autres, de soi, du voisin, du dessus, du dessous, de la couleur de peau de l'autre, de sa religion. Ça va nulle part.
Merci Jean-Luc Mélenchon, merci.